Je me suis aperçu que Anthony Asquith était quelqu'un de relativement oublié aujourd'hui, y compris d'ailleurs en Grande-Bretagne. Donc, je me suis dit que ce serait bien de présenter son œuvre de manière générale avant de parler de cet aspect international, européen, qui motive donc la présence d'Asquith dans cette journée d'études. Anthony Asquith, il est né en 1902 d'une famille célèbre, puisque son père, H.H., enfin H.H. Asquith Esquire, comte d'Asquith et d'Oxford, a été ministre de la couronne britannique et a même été premier ministre entre 1908 et 1916. Donc, il a été premier ministre sous deux règnes différents, Édouard VII, George V, jusqu'à ce qu'il soit donc démis suite notamment à un scandale de délit d'initié dans son équipe en 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Donc, le jeune Anthony Asquith, voilà, il est élevé dans un milieu aristocratique très aisé et il se destine à des études musicales. Je pense qu'il aurait été compositeur ou musicien s'il n'avait pas croisé la route du cinéma, puisque encore aujourd'hui, l'équivalent de l'Oscar de la meilleure musique pour la Grande-Bretagne est surnommé, enfin est baptisé le Anthony Asquith Award, d'où cette importance qu'on lui reconnaît sur la présence de la musique dans les films. Alors, ça se fait un petit peu par hasard. Sa sœur doit s'installer aux États-Unis et puis il la suit. Il est déjà très cinéphile. Notamment, il est l'un des fondateurs de la Film Society, qui était une sorte de ciné-club. Dont l'un des autres membres fondateurs était par exemple George Bernard Shaw, que Asquith dirigera, enfin, dont adaptera plus tard pour l'un de ses films les plus connus, qui est l'adaptation de la pièce Pygmalion. Et donc, il est nourri de toutes sortes d'influences cinématographiques, britanniques. Pas tellement, en fait, parce que le cinéma muet britannique ne brille pas spécialement dans ses premières années par son prestige ou sa qualité, mais beaucoup par le cinéma notamment allemand, russe, scandinave et hollywoodien. Comme il est déjà très cinéphile, lorsqu'il accompagne sa sœur pendant quelques mois, pour ce voyage aux États-Unis, il va profiter aussi de la notoriété de sa famille pour avoir des recommandations et se faire introduire dans le Gotha de l'industrie hollywoodienne, où il va fréquenter notamment Mary Pickford, enfin, Chaplin, des gens qui vénèrent déjà. Et puis, je pense aussi, avec des recommandations lorsqu'il revient en Angleterre, il va bombarder un producteur de scénarios qu'il écrit. Donc, il n'a absolument aucune, au départ, aucune compétence technique dans le cinéma, mais il se targue d'écrire et l'un de ses scénarios va être accepté. Il va avoir un certain succès. Il va ensuite supplier ce producteur de lui donner sa chance. Le producteur qui lui demande d'autres scénarios, de donner sa chance comme réalisateur. Il fait une sorte de début en fanfare comme co-réalisateur d'un premier film, co-mise en scène avec Anthony Bramble, un réalisateur complètement oublié aujourd'hui. Mais là, tout de suite, la critique va se rendre compte qu'il y a là un talent majeur. On est au milieu des années 20. Et alors qu'un autre grand cinéaste est en train de faire parler de lui beaucoup par ses succès critiques et publics, Alfred Hitchcock, Asquith va réaliser son premier chef-d'œuvre, qui est le premier film qu'il signe tout seul, qui s'appelle Underground, Un cri dans le métro. et dont, quand ce sera fini de copier, je vous montrerai un petit extrait. Et d'emblée, voilà, il est singularisé par la critique et la profession, notamment par des gens comme Graham Greene, ou peut-être pas tout de suite, mais assez vite, un peu après, ou, Paul Rota ou John Grierson, comme enfin l'émergence d'un grand cinéaste britannique aux côtés de Alfred Hitchcock. Donc c'est les deux grands noms prometteurs. Et là, on est plutôt vers la fin des années 20, donc vers la fin du cinéma muet. Alors, par la suite, je vais essayer de vous résumer l'ensemble de sa carrière. Il va avoir une période, une sorte de tunnel terrible pour sa carrière, c'est-à-dire qu'il avait été l'un des cinéastes les plus prometteurs du cinéma britannique muet. Et puis, pendant quelques années, à l'apparition du parlant, alors que Hitchcock, sa gloire et son étoile ne cessent de monter, Asquith va connaître une traversée du désert et va réaliser quelques films, dont je vous reparlerai après, mais pour l'instant, je continue de résumer sa carrière, pour divers producteurs. Quasiment aucun n'obtient de succès notoire, jusqu'à ce qu'il réalise, là aussi co-réalise officiellement, mais c'est lui qui est le metteur en scène, cette adaptation de Bernard Shaw qu'est Pygmalion. Et alors là, non seulement sa carrière est à une sorte de deuxième lancement, mais le film aura des nominations à Hollywood. Ce sera un succès mondial. À noter d'ailleurs que bien plus tard, la comédie musicale My Fair Lady, adaptée de Pygmalion, qui donnera sur scène, puis qui donnera ensuite un film réalisé par George Cukor dans les années 60, en 64, sera inspiré certes par la pièce d'origine de Shaw, mais beaucoup plus par l'adaptation cinématographique à laquelle Shaw a participé lui-même, qu'a mise en scène Anthony Asquith, jusqu'à son découpage et jusqu'au fait même que le cadreur du Pygmalion de Anthony Asquith, co-réalisé avec sa vedette Leslie Howard officiellement, mais que le cadreur Harry Stradling sera le chef opérateur de My Fair Lady, donc reprendra quasiment pour des scènes entières le découpage du film d'Asquith. Donc, alors là va naître la carrière la plus prestigieuse d'Asquith, qui fera dire, peu de temps après sa mort, par le grand critique britannique Peter Carey, tous les films d'Asquith se situent en Angleterre ou parlent de l'Angleterre. C'est l'Englishness, cette anglicité qui caractérise, pour le meilleur comme pour le pire, dans les histoires du cinéma, le cinéma d'Anthony Asquith, par le biais notamment des adaptations théâtrales, puisque à la suite de Pygmalion, il va avoir une collaboration très célèbre avec un auteur dramatique à succès qui s'appelle Terence Rattigan, dont il va adapter plusieurs scénarios, dont il va mettre en scène plusieurs scénarios, et dont il va aussi transposer à l'écran plusieurs des grands succès scéniques. Asquith mettra aussi en scène ce qui est considéré comme la meilleure adaptation d'Oscar Wilde de tout le cinéma parlant, Il importe d'être constant, en 1952. Donc les années 40 et 50 sont un peu comme la collaboration, si vous voulez, Noël Coward, David Lean, ou d'une certaine manière, Paul Pressburger, une collaboration entre un écrivain et un metteur en scène qui apportera le plus grand prestige à leur carrière respective, à leur carrière commune. Jusqu'à ce que cette veine se tarisse, notamment au fil des années 50, avec l'émergence de nouvelles générations de cinéastes, de scénaristes, aussi de dramaturges sur la scène britannique, ce qu'on va appeler les jeunes gens en colère, puis ensuite le free cinema, l'équivalent dans France de la nouvelle vague, qui va rejeter un peu aux oubliettes, ou en tout cas traiter avec condescendance, ce cinéma dit de la qualité britannique que représentait Anthony Asquith. Alors maintenant, ça a fini de copier, donc je vais peut-être pouvoir vous montrer un extrait déjà d'un film muet d'Asquith qui a fait parler de lui comme l'un des principaux concurrents ou rivaux d'Alfred Hitchcock. Et puis donc un extrait de Underground, c'est un extrait de la très très longue séquence finale. Je vous en montre juste un morceau où on peut en fait distinguer, ce qui nous remet un peu dans notre sujet, notamment les influences du cinéma allemand, et notamment de deux courants du cinéma allemand, qui sont l'expressionnisme, notamment à travers la stylisation de l'éclairage et du décor, mais aussi l'avant-garde, le documentaire symphonique urbain. Voilà, c'est une trame policière et, disons, mélodramatique. C'est vers la fin du film. Ce que vous allez voir, le méchant du film est un maître chanteur qui est amoureux de la même jeune fille que le héros du film, joué par Brian Ahern. Et donc, pour compromettre son rival, il va essayer de l'impliquer dans un scandale de tentative de viol auprès de sa petite amie, qui met dans la. Le titre français, c'est un cri dans le métro. Donc, le rival étant conducteur dans le métro, il va y avoir un cri féminin poussé dans le métro. Il va être accusé, ce jeune héros, d'avoir abusé de cette jeune femme. Et là, c'est la fin. Lorsque la jeune complice donc de cette tentative de chantage, se voyant repoussée par le méchant de l'histoire, menace de tout révéler. Et comme lui travaille dans une usine électrique, voilà, il va provoquer, il va la, vous allez voir, je spoil la mort puisque c'est la fin du film, il va la pousser, provoquer un court-circuit qui provoque aussi la panne dans le métro. Et ensuite, il va y avoir une course-poursuite dont je vous montre le début. Dans cette usine électrique avant qu'elle se poursuive dans le métro. Voilà. Et vous allez voir là, en fait, l'espèce de, comment dire, de style un peu composite de diverses influences de Anthony Asquith, mais aussi la grande virtuosité de sa mise en scène. Donc une alternance de studio et de décor naturel, vous allez voir. C'est donc le premier long métrage qu'il signe. Voilà un peu un aperçu du style de l'Anthony Asquith, première manière. C'est très virtuose dans la composition visuelle, dans l'utilisation de l'espace, de la lumière, des corps, des mouvements des acteurs, ce qui ensuite deviendra très important avec le cinéma parlant par sa direction d'acteur. C'est quelque chose qui sera toujours reconnu à Anthony Asquith. Ce sens visuel, en fait, va être toujours intéressant jusqu'à la fin de sa carrière, mais dans les recensions et dans les comptes rendus et dans les commentaires de l'époque, va souvent être mis en second après le prestige des scénarios, des adaptations littéraires, de sa façon de s'emparer du patrimoine théâtral britannique. Même si deux de ses auteurs sont irlandais, mais enfin, c'est quand même le théâtre britannique. Bernard Shaw, Oscar Wilde et Terence Rattigan. Aussi d'emblée cette double caractéristique de la recherche formelle, où on voit ici même l'influence des avant-gardes des années 20, par exemple, avec la volonté de s'inscrire dans un cinéma populaire. Il y a un adjectif qui sera souvent utilisé pour décrire son cinéma, notamment par les commentateurs plus récents, qui est le middle brow, c'est-à-dire pas des œuvres élitistes, pas non plus, ou d'avant-garde, pas non plus des films de genre pour le plus grand public, mais voilà, quelque chose qui a suffisamment de prestige pour s'attirer l'admiration, notamment de la presse, d'un public un peu exigeant, et aussi d'attrait pour le film de genre qui permet un éventuel succès populaire. Donc, il va y avoir, cette série donc, de grands sujets prestigieux et littéraires. À la fin de sa carrière, il va se commettre dans un genre dont on a un peu parlé au début, à travers la communication de Jean-François, qui est l'Europudding. Et c'est donc dans ces périodes creuses de sa carrière, ce sont celles que finalement je suis allé visiter, puisque moi-même je les connaissais très mal, que sont la traversée du désert des années 30 et les Europudding superproductions de la fin, qu'on va trouver le rapport le plus explicite de Anthony Asquith avec les autres cultures européennes, les autres cinémas européens. Alors, notamment parce que, après l'insuccès de ses premières tentatives parlantes, il va accepter des commandes. Et parmi ces commandes, on va tenir compte du fait que Asquith, qui parle allemand et qui est allé visiter plusieurs fois la UFA, l'une de ses commandes est de faire une version anglaise d'un film allemand réalisé par Willy Forst et qui est une opérette d'après, qui est une sorte de biographie romancée de la vie de Schubert, qui s'appelle Symphonie inachevée, et dont apparemment Asquith n'est là que pour diriger les séquences qui font intervenir les acteurs parlant en anglais, donc essentiellement pour sa direction d'acteur. Il est aussi responsable en tant qu'auteur de la traduction des dialogues. Donc, une œuvre de commande. J'aurais aimé vous en montrer des extraits, mais le film est rarissime, introuvable. Il paraît qu'il y a une copie au British Film Institute, mais qui n'est même pas disponible lorsqu'on en demande de la vision. Donc, ce qui est trouvable, c'est le film de Vilfort. Mais voilà, ce qui aurait été intéressant, c'est de comparer les deux. Par contre, alors, il y a un autre film qui est signé Asquith et qui est censé être l'un des points les plus bas de sa carrière, qui est le premier film produit par Alexander Korda lorsqu'il s'est installé dans ses studios qu'il a fait construire à Denham. Et étrangement, l'une des politiques de Korda, donc le grand producteur britannique, mais donc hongrois-britannique, étant passé par la France, l'une de ses idées lorsqu'il devient l'un des producteurs les plus prestigieux de Grande-Bretagne, et de faire des remakes de succès européens. Et alors, l'un de ces succès est un film qu'il a vu en France, et qui s'appelle « Nuit moscovite », d'après un récit de Pierre Benoît. Un film réalisé en France par le russe exilé Alexis Granovski. Et c'est assez étrange parce que ce n'est pas une version multiple. Asquith va être engagé pour mettre en scène un remake, mais un an après, des Nuits moscovites, sous la supervision du réalisateur du film d'origine, puisque Korda, lui, est déjà très occupé à la construction et à la mise en place de ses grands studios. Sous la supervision d'Alexis Granovski comme producteur. Donc, le réalisateur d'origine produit le remake britannique avec la même vedette principale, c'est-à-dire Harry Bore, puisque c'est Harry Bore qui avait fait le succès du film en France, qui d'ailleurs a spécialisé pendant quelques années Harry Bore dans les rôles de Russes, notamment Rasputin. Et Asquith est responsable donc de la mise en scène de ce remake. Ce qui est très intéressant, c'est la comparaison du film d'origine avec le remake, avec le même acteur principal, avec tous les plans les plus chers et non dialogués, sauf il y a de la foule, des figurants ou des très grands décors, qui sont repris du négatif du film français d'origine, et avec les nouvelles scènes dialoguées qui sont reprises avec Harry Bore qui apprend son rôle en anglais phonétiquement puisqu'il ne parle pas anglais. Il est extraordinaire dans le film, dans la version anglaise. Et on remplace le couple de jeunes premiers joués par Pierre-Richard Wilm et Annabella dans le film de Granovski. On les remplace par un tandem que Korda veut pousser et qui est Laurence Olivier et Penelope Ward. Donc, ce que je vais vous montrer, qui est assez intéressant, c'est dans des copies malheureusement assez mauvaises, puisque les films sont très rares, les 5 dernières minutes du film de Granovski et ensuite les 5 dernières minutes du remake d'Anthony Asquith. Ah, excusez-moi, il faut quand même que je vous explique, parce que sinon, le scénario est très mélodramatique et très compliqué, et il se déroule en 1916, étrange parce que c'est l'année, une année importante pour la famille Asquith, l'année de la destitution du père Asquith comme Premier ministre, donc en pleine Première Guerre mondiale en Russie. Et il y a une rivalité amoureuse entre un sorte de profiteur de guerre, un très riche marchand qui est joué par Harry Bore, Briokov, et un fringant jeune officier qui est ici joué par Pierre-Richard Wilm, qui sont tous les deux amoureux de la même jeune femme, une jeune aristocrate qui est infirmière et qui soigne les blessés de la Première Guerre. C'est comme ça qu'elle fait la connaissance du jeune homme, alors qu'elle est fiancée au marchand de biens qui est censé renflouer sa famille aristocrate déchue. Donc ce mariage est très important pour la famille de la jeune femme. Et à la suite de méandres mélodramatiques assez compliqués, le jeune officier perd au jeu une somme considérable et doit donc 60 000 roubles à son rival amoureux, le marchand richissime Bryukov, joué par Harry Bore. Et c'est un film d'espionnage où, à un moment donné, une espionne tente d'allécher le jeune officier qui est dans le secret des dieux, puisqu'il est responsable de transmettre des secrets sur les endroits où sont stockées les munitions russes. Donc, il est joint par un réseau d'espionnage qui va combler, qui se propose de combler sa dette de jeu, parce que sinon, il va devoir se suicider, puisque tel le veut l'honneur de l'officier. Voilà. Donc, il va subir un procès pour trahison, donc au terme duquel il risque d'être fusillé, et parce qu'on l'accuse d'avoir toucher cette somme d'argent pour pouvoir rembourser le riche marchand de biens, alors que celui-ci, péripétie assez difficile à croire, mais quand même, a annulé la dette suite à la supplication de sa jeune fiancée qui est amoureuse de l'officier. Voilà. Donc, si vous voulez, le clou. Enfin, le climax du film, c'est la fin, c'est le riche marchand va-t-il dire la vérité? Va-t-il dire que, en fait, il a signé ce papier disant qu'il a été remboursé alors qu'il n'a pas reçu l'argent? Voilà.
Prêtez serment.
Je jure devant Dieu Tout-Puissant.
Je jure devant Dieu Tout-Puissant.
Et sur la Sainte Croix.
Et sur la Sainte Croix.
De dire toute la vérité.
De dire toute la vérité.
Rien que la vérité sur l'affaire Ignatov.
Rien que la vérité sur l'affaire Ignatov.
Ne me laissant influencer ni par la parenté.
Ne me laissant influencer ni par la parenté.
Ni par l'amitié.
Ni par l'amitié.
En foi de quoi j'embrasse le Saint Crucifix.
En foi de quoi j'embrasse le Saint Crucifix.
N'oubliez pas de vous déposer devant la cour martiale et que vos paroles peuvent avoir des conséquences graves.
J'ai embrassé la Sainte Croix.
Le 14 juin, vous vous trouviez au cercle des marchands. Vous avez gagné 54 000 roubles au capitaine Ignatov. C'est exact.
54 000 roubles, exactement.
Sursus. Eh bien, de votre main.
Oui, monsieur le président.
C'est bien vous qui avez rédigé, signé et envoyé sursus au capitaine Ignatov.
Oui, c'est bien moi.
La preuve est faite.
Il reste une question à poser.
Voyons.
La réponse décidera de la vie de l'inculpé. Le témoin a-t-il effectivement reçu les 54 000 roubles?
Reçu?
Oui, Bryukov. Vous avez signé un reçu, c'est entendu. Mais avez-vous été payé?
Messieurs les juges, cet homme m'a tout pris. Tout ce que j'avais de plus cher au monde. Plus que l'argent, plus que la vie. Je le hais. Je te maudis. Tu entends?
Je sais. Et je n'espère pas.
Ben, silence. Bryukov, avez-vous reçu l'argent, oui ou non?
Thank you.
Avez-vous reçu l'argent, oui ou non?
J'ai juré sur la Sainte Croix. Je n'ai pas reçu l'argent.
Alors, pourquoi avez-vous envoyé le reçu?
On m'avait demandé de le faire. Pour que je ne commette pas une mauvaise action.
Tu sais, il y a des moments où j'ai cru que tout était perdu. C'était fini. Fini.
Tu te rappelles à l'hôpital, après ton délire, ton réveil?
Oui, je me rappelle.
Ferme les yeux. Tout ce qui est arrivé ne compte plus. C'était un cauchemar. Et maintenant, ouvre les yeux. La vie commence. Nous sommes tous les deux.
Voilà, alors donc ça c'est le film d'Alexis Granovski. Et maintenant je vais vous montrer le remake, la fin, la même séquence. Juste mettre l'accent sur quelques détails. D'abord, la volonté d'Asquith, enfin c'est pas lui qui a rédigé l'adaptation, mais sa volonté dans la mise en scène de restreindre notamment le jeu du jeune premier, en l'occurrence Laurence Olivier, et de changer l'épilogue du film en supprimant le dialogue et en rendant, à mon sens, plus cinématographique, entre guillemets, cette séquence et son épilogue. Donc, jeu d'acteur plus restreint, suppression du dialogue, suppression de la fin heureuse conventionnelle. Alors, toutes mes excuses, parce que le fichier est épouvantable, le film est quasiment invisible, je l'ai trouvé sur YouTube. Voilà. Mais donc je pense que c'est que ça a été filmé sur une mauvaise caméra vidéo qui a filmé un écran qui passait le film. Hein. Enfin, mais on s'aperçoit quand même à la fois de contraintes économiques qui font que le décor est moins imposant dans le remake anglais, mais surtout de quelques traits qui ensuite vont être mis en avant comme qualité du cinéma d'Asquith, comme dans son anglicité, dans son sens de la mesure, de la nuance notamment, et aussi, alors là, dans la manière que moi j'apprécie le plus, c'est-à-dire de traduire en termes visuels ce qui au départ est plus de l'ordre du littéraire ou du théâtral dans l'écriture. Voilà. Je ne le mets pas en plein écran, parce qu'en plein écran, ce sera encore pire la définition, je crois. Donc je le laisse comme ça.
Duty to remind you that you're appearing before a court martial. Anything you say may have serious consequences.
Yes.
On the 14th of June last, did you win 80,000 rubles from Captain Ignatov?
I did.
Is this receipt in your handwriting?
Yes, it is.
Did you draw the receipt yourself, sign it, and send it to Captain Ignatov?
I did.
No questions, Mr. President. The testimony of the witness proves the guilt of the accused.
Just one question, Mr. President. And my whole case depends upon the answer. It means honor or dishonor, life or death to the accused. Mr. Bryukov, did you actually receive the 80,000 rubles from Captain Ignatov?
Receive?
Yes, Mr. Bryukov. You signed a receipt, we quite understand that. But have you in fact been paid? Tukov, did you receive the money? Yes or no?
Kiss the cross. No. I never got the money.
The witness is dismissed.
Séquence non présente dans le film français.
Peter Petrovich. Oh, thank you. Voilà l'épilogue, totalement différent. Le héros repart au front. Là, on voit presque rien, c'est la nuit. Voilà, il n'y a pas vraiment la happy end, ni le dialogue entre les deux jeunes premiers à la fin. Ce sens de la nuance dont on fera l'une des caractéristiques de la qualité anglaise, le fait que le méchant soit... un peu rattrapé par les remerciements de la jeune femme, le jeu de Laurence Olivier, où il est presque impassible par rapport à Pierre-Richard Wilm qui surjoue son anxiété, et puis bien évidemment la fin. Alors, je sais qu'il reste presque plus de temps du tout. Je voudrais quand même juste montrer deux extraits, si c'est possible, qui ne sont pas très longs. Je vous avais donc, c'est l'un des films qui fera de Laurence Olivier une vedette du cinéma britannique. Pendant l'effort de guerre, Asquith va avoir une série de films qui vont être très prestigieux et très appréciés, et notamment le seul film, ou l'un des seuls films, en tout cas le seul film important britannique, qui soit dévolu à l'alliance entre les soviétiques et les Anglais, enfin les Britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale, où Laurence Olivier joue le rôle, le film s'appelle The Demi Paradise, joue le rôle d'un ingénieur russe qui, par ses compétences, arrive à sauver, techniquement, un navire de guerre britannique. Et c'est le discours final, alors là c'est plus dans le dialogue, mais c'est intéressant, le discours final de cet ingénieur russe pour prôner l'amitié entre l'Union soviétique et l'Angleterre, mais qui est aussi une manière pour Anthony Asquith et de se servir de l'étranger, qui est le titre français d'ailleurs du film, ou du regard européen étranger sur la société britannique, pour dire deux ou trois choses, non seulement sur cette société-là, qui est la sienne, mais aussi sur le cinéma britannique lui-même. Alors, voilà, rapidement, c'est vers la fin de Demi Paradise.
My friends,
And you really are my friends, all of you. When I came to your country, I was filled with misconceptions and prejudices. But now that I have got to know you, I know that you are a great people.
1943.
Don't blush now. Don't look embarrassed. I must tell you, much of the world thinks that you care only about money. And you care much more about cricket, or nightingales, or a good job well done. Much of the world thinks that you are perfidious and hypocritical. And you are warm and kindly. And do you know why the world thinks these things? Because you want it to. It amuses you. It pleases that dreadful sense of humor of yours. And that sense of humor is perhaps the guiding factor of your lives. If you can laugh at life and at yourselves, you can be tolerant. If you can laugh, you must hate persecution. You must love decency. Above all, you must love freedom. For there is no laughter where there is no freedom. Now, my people, the people of Russia, they also love to laugh. And they will fight to the death rather than surrender their right to laugh. Today we are allies, friends. Let us remain friends. Let us fight together in the years to come and then laugh together in the years afterwards. Fight selfishness and greed and violence and then laugh them out of existence. Will you please name the ship?
I name you Druzhba. Friendship. In honor of our Anglo-Soviet friendship, long may you sail.
Alors, dernier extrait maintenant, le déclin d'Anthony Asquith. Alors, c'est sûr que les circonstances, comme les adaptations littéraires ou théâtrales plus tard, dictent aussi à Anthony Asquith cette ode à l'amitié anglo-soviétique, tout comme lorsqu'il y aura la guerre froide, Anthony Asquith fera des films d'espionnage considérés comme anti-soviétiques, mais qui auront toujours... à un moment donné, cette volonté quand même de rassembler dans l'amitié ou parfois dans l'amour des personnes qui sont destinées à être, par les circonstances, des ennemis. Je ne vais pas avoir l'occasion de tout vous montrer. Juste un dernier court extrait de son dernier film. C'est The Yellow Rolls Royce. Un film qui a été assez descendu en flèche par la critique française notamment, un film omnibus, comme on dit, un film à sketch sur des histoires reliées par le destin d'une Rolls-Royce jaune, donc le symbole de l'upper class britannique, avec une distribution internationale. Trois couples se partagent les sketchs. Juste pour vous donner un aperçu, aux côtés de Shirley MacLaine dans le rôle d'une Américaine que vous allez voir, vous avez Alain Delon qui joue le rôle d'un Italien, Ingrid Bergman qui joue le rôle d'une veuve américaine, Omar Sharif qui joue le rôle d'un Yougoslave, Jeanne Moreau qui joue le rôle d'une lady britannique, enfin d'origine française quand même. Voilà, c'est la définition de l'Europudding tel que... on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et c'est aussi pour Asquith et Ratigan une façon de se voilà de pratiquer la coproduction internationale, et mais surtout pour Asquith de sortir de l'Angleterre pour tourner en extérieur naturel. Donc un petit extrait un peu, même si j'aime pas beaucoup le mot, un peu kitsch, je déteste ce mot, mais vous allez voir quand même que Alain Delon jouant le rôle d'un Italien pour tenter de séduire Shirley MacLaine, il joue le rôle d'un paparazzo en fait, et elle d'une de la petite amie d'un gangster joué par George T. Scott, voilà, sur notamment sur le cliché lui-même ou la notion de cliché. Il suffit de double-cliquer. Donc l'arrivée à Florence de la Rolls-Royce. Pardon. Hop. On termine là-dessus.
Signorina, isn't it great? It makes a beautiful picture, and I'm an artist with a camera, but what's the use? I have to live on tourists and tips.
Who tip best, American or German ladies?
An interesting question. English ladies, in fact, tip the best, but they are so serious, always so serious. They think that if you have just one conversazione, signor, just one, that you are bound to be loving them for life.
What about Italian women?
There. 5 lire for the photograph. And if you go home with them, what? They have a husband. And you get a black eye without 5 lire.
Are all the guys here like that?
Sure. There are more.
I guess they are immoral.
Amoral.
There's a difference?
Sure. An immoral guy is a guy who knows he's doing wrong, but he keeps on doing it anyway. Like me. Power. Or maybe you, honey. An amoral guy doesn't know it's wrong.
So he keeps on doing it too?
Sure.
Well, whatever this guy is, I don't think a guy should go around talking about women the way this guy does.
They're frustrated women, baby. Most of them. And he gives them something, like...
Yeah, they give him something, too, maybe. Like money.
Well, that's life.
Thank you. But I would, first of all, like to take a photograph of the lady. With the most beautiful view in the whole world, signorina.
Well, I really wouldn't know. Can I have a cup of coffee, please?
And something to eat, maybe?
I'm going to get a cigar.
Yeah. What's so funny?
Just that you show me so often the left side of your face. When you're right, it's even better. Of course, you know that yourself. Because surely you're a film star.
I am not a film star. I'm not a film anything. I'm a hat check girl in a nightclub in Miami. Any other questions?
Thank you. Full face, your best of all. You have a great beauty, signorina.
Yeah, just like all the other American girls, huh?
No, and happily, that's not true.
That's what you tell them.
No, I just sometimes let them believe it.
Even if they're old and ugly?
When people are old and ugly, it is kinder not to let them remember it. Don't you think?
Yeah. It's better business.
Yes, also better business. You must come to Sorrigano one day. That's where I go now for the season, where the tourists are. There you'll find me. The right is better. Only just, but it is. I think your mother and father must have come from Naples, no?
They're from Brooklyn.
Grandmother? Grandfather?
Her grandmother was Italian.
From Naples?
Why Naples?
Because only in Naples does such beauty belong. For 2,000 years ever since Caligula, it has been so.
Voilà, donc c'est quand même l'Europe qui est mise en avant par rapport à l'Amérique, les racines européennes. Un petit discours sous-jacent sur la vénalité, peut-être un commentaire sur la façon de faire des films qui a changé des années 40 jusqu'aux années 60. Et puis un dernier film un peu européen de ce metteur en scène qui, par ailleurs, n'est connu que pour avoir tourné en Angleterre des films sur des sujets anglais. Merci.